Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Employeur, employé, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche? Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne. Décembre 2017, journée mondiale de lutte contre le sida. Ils sont 21 millions de personnes qui sont séropositives à travers le monde. Et ils sont tous sous traitement. Et saviez-vous que les organismes de l'Ontario qui offrent des services en matière de VIH-sida viennent de recevoir une augmentation de 11%. Mais qu'en est-il vraiment des services existants, l'accès aux services VIH-SIDA pour les personnes bilingues ou francophones de la région de Toronto ou même de l'Ontario? Où en est-on avec la prévention, cette fameuse stratégie? 1er décembre 2017, journée mondiale de lutte contre le sida. Ils sont plus de 21 millions de personnes qui ont besoin de notre aide, de notre compassion, de notre générosité et surtout de notre amour. Soyez des nôtres aujourd'hui pour un regard sur l'état des services et des traitements dès midi aujourd'hui. Ne ratez pas ce rendez-vous.
En 2017, on vend encore des Noirs, on vend nos frères en Afrique, parce que ces jeunes ont décidé de quitter leur pays, parce qu'ils ne croyaient plus au pays dans lequel ils vivaient, ils ne voyaient plus d'avenir. Ils ont décidé de tout quitter pour espérer une vie meilleure ailleurs, et aujourd'hui se retrouvent esclaves en Libye, en 2017.
Dans la nuit libyenne, une voix...
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son pays. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.reflet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Nous, les franco-ontariens, on a le droit de se faire servir en français.
Mais personne ne le sait.
Même pas les franco-ontariens.
On est protégé par la loi 8.
En fait, on dit maintenant la loi sur les services en français.
Ah oui, c'est plus court.
Ça peut être compliqué à comprendre, donc Improtéine vous l'explique. La loi sur les services en français permet aux Ontariens de se faire servir en français par leur gouvernement provincial.
On a accès à toute l'information en français de tous les ministères ou organismes gouvernementaux, en ligne ou par téléphone.
En personne aussi? Yes!
Yeah, non. Juste dans les régions désignées.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde.
Ici,
tour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, ça continue, madame, monsieur. Le son de votre ville, le son de votre radio. 30 ans déjà, et nous remercions tous ceux et celles qui nous ont appelés la semaine dernière. Et bien sûr, la belle carte et la belle surprise de Lucien et Brent, Jean-Jules Benoît. Alors, si cela vous intéresse, vous êtes disponible. On aimerait vous jaser un peu avant la fin de l'émission. Appelez-nous au 416 946 7000. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la région de Toronto ou même à l'étranger peuvent nous appeler aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. L'ingénieur du son DJ Devera, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Jennifer Lee, la grande actrice de Hollywood, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Et puis nous avons bien sûr Xavier Gonzalez. How is your English? How is your French? Improving? Ça va? Merci beaucoup les amis d'avoir aidé la semaine dernière. Vous avez aimé l'expérience? Did you like it?
Je veux aussi ici remercier tous les donateurs, d'ailleurs, qui sont éligibles de gagner un voyage pour deux en Islande, gracieuseté de Iceland Naturally. Et puis, certains dons sont dédiés pour une émission spéciale aujourd'hui et peut-être cette semaine une rencontre communautaire sociale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, vendredi. Nos sincères remerciements aussi et notre profonde gratitude aux invités, bénévoles, partenaires. Jézabel Bardot, bonjour, bonjour et merci Olga Lambert, directrice de People of Motherland, Amiclé Fontaine, président de la Fondation Sylvanie Lindor et leader communautaire haïtien de la région de Toronto, professeur Caroline Lebrec du département d'études langagières à campus de Mississauga Université de Toronto, Jenny Lee, merci, Xavier, Taste of Island et aussi coup de cœur francophone du Centre francophone de Toronto, le Théâtre français de Toronto, Brian Brown of McClicken Premium Imports pour la bière blonde de la Belgique. Un gros merci à vous. Et encore une fois, si jamais vous voulez passer en direct, réagir ou encore qu'on vous remercie en ondes, allez, notre ami Lucien, Brent, Jean Jubenot et les autres, 86 946 7000, merci mille fois. Et oui, grâce à vous, nous avons amplement dépassé notre objectif de 60 000 dollars. Nous sommes très émus, spécialement pour vos commentaires, vos marques d'affection, d'encouragement, vos lettres. Regardez-moi ça, belle carte postale. Incroyable, je suis... mon cœur palpite. Et oui, on se dimanche 26 novembre. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui parce que nous ouvrons l'antenne aux auditeurs qui veulent réagir sur la vente aux enchères de migrants africains en Libye et la journée mondiale de lutte contre le sida. Et oui, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm ou encore téléphonez-nous. Jenny et Xavier attendent vos appels au 86 946 7000. Et les membres de la radio et de très nombreux amis, artistes, partenaires de notre émission condamnent bien sûr la vente aux enchères des migrants africains en Libye. Stupéfaction, colère à travers le monde. Quelle est la responsabilité des gouvernants africains, des Européens, des États-Unis et le Canada? Pourquoi ces silences radio chez les médias canadiens et la communauté francophone? Notre ami Claudie Sillard, l'animateur de Couleur Tropicale, la première émission de RFI, comme vous le savez, appelle à la mobilisation. Reportage choc de la chaîne américaine CNN. Attention au cœur sensible. On verra bien si on peut diffuser cette séquence à l'antenne. Parmi nos invités aujourd'hui, Claudie Sillard, Michel Arsenault, service RFI Afrique, Juan Gomez, animateur et producteur à RFI, Alpha Condé, président de l'Union africaine et président de la République de Guinée, DJ Arafat, si on a le temps, l'artiste Zao, le cri du cœur du célèbre chanteur de reggae que vous connaissez très bien, qui est venu plusieurs fois à Toronto, l'Ivoirien Alpha Blondie sera des nôtres. VIH SIDA, l'approche de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le 1er décembre prochain, l'ONU SIDA a lancé la campagne 2017 de la journée mondiale de lutte contre le SIDA intitulée « Ma santé, mes droits ». Elle concerne le droit à la santé et se penchera sur les problèmes que rencontrent des personnes du monde entier lorsqu'elles veulent faire valoir leurs droits. Comment pouvons-nous améliorer la prévention face au virus du SIDA? On en parle avec plusieurs spécialistes, y compris Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, et la mairesse de Paris et plusieurs médecins, grâce à Radio France Internationale et son magazine Priorité Santé vers midi. Et nos sincères remerciements aux personnes qui ont contribué financièrement à ce segment pour le VIH à SIDA, l'émission d'aujourd'hui, et la rencontre sociale communautaire qu'on nous exige d'avoir absolument ce vendredi avec des personnes francophones vivant avec le VIH à SIDA dans la grande région de Toronto. Donc 1er décembre, c'est presque complet, malheureusement, si vous êtes en retard, alors téléphonez-nous quand même, on verra bien ce qu'on peut faire. 25e édition du Salon du Livre de Toronto. Les poètes québécois Corinne Chevarier et Stéphane Despaty rejoindront les écrivains francophones de la région de Toronto et seront les invités au Salon du Livre de Toronto à la bibliothèque de référence. C'est au centre-ville de Toronto, rue Yonge et Bloor, le 30 novembre prochain, lors d'un récital en poésie. Se passent aussi d'autres activités et nous en parlons avec quelqu'un qui est actuellement, tenez-vous bien, sur les plages de Mexico. Alors, on verra bien s'il peut répondre à notre appel. Il est Gaston Belmar, président du Festival international de la poésie et de la Fédération des festivals internationaux de poésie. Si vous nous entendez en ce moment sur le net, vous nous appelez au 1-416-946-7000. Monsieur Belmar, s'il vous plaît, appelez-nous. Langues officielles, le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Raymond Théberge, devrait être nommé au poste du commissaire aux langues officielles du Canada. Selon plusieurs médias, si la nouvelle se confirme, le gouvernement de Justin Trudeau accéderait partiellement aux demandes des provinces et des maritimes de nommer un premier commissaire aux langues officielles du Canada issu des communautés acadiennes. Je vous rappelle que M. Théberge succéderait à Graham Fraser, qui a occupé les fonctions de commissaire pendant 10 ans et prendrait ses fonctions de commissaire pour un mandat de 7 ans. M. Théberge connaît également bien l'Ontario, puisqu'après avoir été à la tête du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada à titre de directeur général entre 2005 et 2009, il a par la suite occupé le poste de sous-ministre adjoint de la division de l'éducation en langue française, de l'éducation des autochtones et de la recherche au ministère de l'Éducation et ministère de la formation des collèges et universités de l'Ontario. Malgré cette éventuelle nomination en coulisses, plusieurs voix questionnent le processus de nomination qui avait été relancée au mois de juillet. Et oui, des candidats qui ont postulé lors de cette deuxième ronde indiquent ne pas avoir été contactés et se demandent si les nouvelles candidatures ont été considérées ou s'il s'agissait simplement d'un exercice de relations publiques. En France, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président français Emmanuel Macron fait de l'égalité homme-femme sa grande cause, une première d'ailleurs pour la France. Malgré les efforts du président français, les voix s'élèvent pour dénoncer le manque de financement et les carences dans les instances judiciaires. Agression sexuelle, un projet pilote pour mieux soutenir les victimes de l'Université du Québec à Montréal. On en parle un peu plus tard. Le Premier ministre Justin Trudeau estime que les hommes doivent en faire plus pour mettre fin à la violence contre les femmes. Et selon lui, cette violence est une atteinte aux droits de la personne. Il ajoute que les hommes doivent se tenir responsables entre eux pour éliminer les comportements qui briment les femmes. Il a exhorté les hommes à se lever pour défendre les droits des femmes, à dénoncer la violence et à promouvoir le leadership des femmes dans toutes les sphères de notre société. Discrimination envers la communauté LGBTQ, Ottawa et des plaignants s'entendent. Un avocat a annoncé samedi qu'une entente de principe avait été conclue entre Ottawa, le gouvernement canadien, et un groupe de personnes ayant intenté un recours collectif contre le fédéral parce qu'elle aurait été persécutée avec l'assentiment du gouvernement en raison de leur orientation sexuelle. En Ontario, malgré les annonces en rafale des derniers temps de la ministre du ministère des Affaires francophones, nouveau ministère, de nombreux centres culturels, tenez-vous bien, de nombreux centres culturels en Ontario, lieux d'importance pour la diffusion de la culture en français dans la province, sont en danger. Et oui, plusieurs acteurs du milieu espèrent que le gouvernement donnera finalement suite aux recommandations du livre blanc sur la culture dévoilé il y a plusieurs mois. L'organisme et notre partenaire Reflet Salvé recrute un ou une administrateur, administratrice pour siéger à son conseil d'administration. Êtes-vous francophone, passionné par les services de santé? Possédez-vous des compétences dans le domaine juridique? Reflet Salvé vous invite à présenter votre candidature ou une déclaration d'intérêt pour siéger à son conseil d'administration et ses comités. Allez sur le site www.refletsalvéo.ca pour tout savoir. Et l'édito de ce dimanche, selon plusieurs ténors et associations franco-ontariennes, le Collège Glendon, je dis bien le Collège Glendon de l'Université York, doit arrêter en 2020 d'offrir des cours en français pour laisser le champ libre à la nouvelle Université de l'Ontario français. Vous avez bien entendu. Le Collège Glendon doit arrêter en 2020 d'offrir des cours de français pour laisser le champ libre à la nouvelle Université de l'Ontario français. Qu'en est-il du département d'études françaises à l'Université de Toronto ou encore les autres programmes de français sur les autres campus de l'Université de Toronto? La réaction des principaux acteurs a été foudroyante. Une fin de non-recevoir sur un ton qui n'invite pas à la réplique. La ministre Marie-France Lalonde, d'ailleurs, s'est dite surprise de cette demande, qu'elle a carrément qualifiée d'attaque contre le Collège Glendon. Eh oui, selon Pierre Allat, journaliste, ex-éditorialiste au quotidien Le Devoir et blogueur occasionnel au Huffington Post, le projet d'université franco-ontarienne vient de frapper un mur bétonné, monsieur. Eh oui, c'est lui qui le dit. D'ailleurs, on voulait l'avoir, monsieur Allard, qui vit dans la région de Gatineau, pas très loin de Ottawa. Il faut traverser la rivière. Peut-être très prochainement. J'aimerais bien l'avoir à l'émission pour qu'on en discute. C'est très important et c'est très grave. Comme je l'ai annoncé, madame, monsieur, à plusieurs reprises, la question ici, ce n'est pas qu'on est contre la nouvelle université franco-ontarienne. Pas du tout, pas du tout. La question, c'est qu'on... À mon avis, on revit. D'ailleurs, on a déjà vécu ce problème avec le Collège des Grands Lacs. Il me semble qu'on n'a pas appris de leçons. Manque de transparence, manque de consultation avec les autres instances, institutions éducatives et surtout les universités qui offrent des programmes en français. Voilà, le message est passé, sans commentaire. Potpourri chaud, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Assis sur la pelouse, regardant les filles qui bougeaient, je tombe. Elles ont terminé et je crois qu'elles ont gagné, là je tombe. Mais je peux pas me lever, par terre je peux seulement rêver. Hey. Tombe endormi, tombe en amour, y'a pas de différence toujours. Hey. J'ai les jambes croisées, la vie ont recommencé, là je tombe. Elles sont tellement jolies, et j'ai faim car ce midi, là je tombe. Tombe, je peux pas me lever. Je voudrais seulement, seulement me lever. Mais tout le monde essaie de m'arrêter. Là, je suis assis dans l'auto à écrire quelques petits mots et je tombe. Je voudrais respirer, mais les fenêtres sont levées et je tombe. Tombe, je peux pas me lever.
Je pourrais appeler cette séquence polémique ou encore scandale. Après la diffusion d'une vidéo de CNN montrant une vente aux enchères de migrants comme esclaves, des dirigeants africains, l'ONU et des artistes s'indignent. Des manifestations à l'appel de plusieurs associations et artistes, y compris Claudie Sillard de Couleur Tropicale de RFI en France, lance des appels de mobilisation. Alpha Blondy aussi fait partie. Et oui, il y a eu plusieurs manifestations en Europe et en Afrique, bien sûr. Mais au Canada, les Canadiens sont très timides. Les médias canadiens n'en parlent pas. Même nos francophones, nos chers amis francophones, refusent d'accepter, certains d'entre eux refusent d'accepter que c'est un scandale du siècle. C'est une vidéo choc réalisée par des journalistes de CNN qui a révélé le scandale mercredi 15 novembre en Libye, non loin de la capitale Tripoli. Des migrants africains en route pour l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des passeurs pour des sommes allant de 500 à 700 dinars libyens jusqu'à 200 dollars pour nous ici au Canada. Les images de mauvaise qualité montrent des hommes jeunes et le son ne laisse pas de doute sur ce qui se joue lors de cette séance. Une voix met aux enchères des garçons grands et forts pour le travail de ferme. 400, 700 ? En l'espace de quelques minutes, les journalistes de CNN ont assisté à la vente d'une douzaine de migrants originaires, notamment du Nigeria. La plupart sont utilisés comme travailleurs journaliers dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Les hommes qui venaient juste d'être vendus sont restés muets. Ils étaient si traumatisés par ce qu'ils venaient de vivre qu'ils ne pouvaient pas parler et si effrayés qu'ils se méfiaient de tous ceux qui venaient à leur rencontre. Incroyable. Ces marchés aux esclaves auraient lieu une ou deux fois par mois en Libye, nous dit-on. Interrogé par CNN, un ancien esclave qui est parvenu à s'enfuir raconte son quotidien et il dit, je cite, ils vous forcent à travailler et vous battent. Ce n'est pas la première fois qu'un tel commerce est dénoncé. Au mois d'avril, l'Organisation internationale pour les migrations avait affirmé que la traite d'êtres humains était devenue une pratique fréquente chez les passeurs. Des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest avaient dit à cet organisme avoir été acheté et revendu entre 200 et 300 dollars. Dans les garages, des parkings de la ville de Saba, localité du sud de la Libye, par laquelle passent de nombreux exilés. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé qu'on va entendre tout à l'heure, et le gouvernement sénégalais se sont indignés, tout comme le président nigérien Mamadou Issoufou, qui a demandé que le sujet soit mis à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine européenne dès le 29 et 30 novembre prochain à Abidjan. De son côté, le président togolais Faure Kgatsibé parle d'infamie. Je vous laisse entendre le cri du cœur, madame, monsieur, le reportage et la colère de notre confrère Claudie Sillard, l'animateur très très connu internationalement, bien sûr, en Afrique et dans les instances de Radio France internationale. Écoutons Claudie Sillard.
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis le mercredi 15 novembre, se mobilisent pour mener des actions concrètes, exprimer leur désapprobation et leur engagement pour mettre un terme aux crimes perpétrés en Libye. L'histoire s'écrit au présent et l'action que nous menons peut être déterminante dans les futures relations entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et l'Occident, l'Afrique et le reste du monde. Et puis, je pense aux Afros de France, qu'ils soient originaires d'outre-mer ou d'Afrique. Les discriminations qu'ils subissent peuvent peut-être trouver des chemins de dialogue, d'explication, en tout cas de possibilités de règlement au regard de la lutte que nous sommes en train de mener. Nous voyons bien qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les dirigeants africains, qu'ils soient économiques ou les élites intellectuelles, et les populations. Oui, il y a un fossé de plus en plus grand. Ça s'explique par le mépris, le manque d'écoute de tous ces puissants envers les populations. Et aujourd'hui, les populations en ont marre. Les jeunes en ont marre. Et rien ne dit que dans les semaines et mois à venir, il ne peut pas y avoir dans bon nombre de pays un basculement politique. Parce que les populations non seulement sont mobilisées, non seulement elles sont en colère, mais elles veulent changer la vie. Elles ne veulent plus vivre comme ça. Elles ne veulent plus voir leur avenir hypothéqué. Elles veulent avoir la possibilité, là je pense aux parents, de donner un avenir aux enfants. Que l'avenir soit sur le continent ou ailleurs. Faut-il rappeler ici, puisque l'Europe s'est entendue avec la Libye et pas seulement, pour enrayer, stopper tous nos jeunes qui souhaitent gagner l'Eldorado européen, qu'il soit illusoire ou réel, faut-il rappeler comment ont été peuplées les terres des Amériques par le génocide des peuples autochtones et la déportation des Africains ? Faut-il rappeler ici comment ont été peuplées les terres d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tasmanie, là encore, par le vol des terres ancestrales des populations autochtones et par le génocide. Le Mayflower, qui a permis à tant d'Anglais, tant d'Européens d'aller justement sur ces nouvelles terres pour prospérer. Aujourd'hui, vous voulez empêcher les Africains de circuler alors que les situations économiques de leur pays sont dues à la prédation des pays occidentaux. Le combat que nous menons ne doit pas être un combat de noir contre blanc, de noir contre arabe. Même s'il est vrai qu'il y a dans ce qui nous occupe deux camps, les Arabes et les Européens qui, dès le 7e siècle, ont esclavagé les populations d'Afrique noire. Oui, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, les descendants de tous ces suppliciés dans les fers de l'esclavage ne seront plus jamais les damnés de la terre. Car nous prenons nos destins en main. Et le combat légitime que nous menons aujourd'hui, les combats que nous menons, car nous sommes sur tellement de fronts, malheureusement, sont des combats pour la dignité humaine, pour l'ensemble de l'humanité. Nous avons créé un collectif. Le collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Rejoignez-nous. Nous avons décidé, en tout cas l'organisation, d'une manifestation ce samedi 18 novembre devant l'ambassade de Libye en France. Rendez-vous dans le 15e arrondissement donc pour protester face aux crimes contre l'humanité perpétrés par la Libye avec le financement de l'Union européenne et la complicité et le silence de l'Union africaine. Soyons solidaires de toutes celles et tous ceux qui souffrent au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où je vous parle. J'ai discuté toute la matinée avec un jeune Camerounais, Valentin, qui a fait la traversée, qui avec lui a emmené sa sœur, adolescente, qui aujourd'hui est emprisonnée en Libye. Elle a été violée, elle a subi les pires sévices. Ce qu'il m'a raconté de la traversée, je ne pouvais pas imaginer que la barbarie pouvait aller aussi loin, que des gens pouvaient être capables de ce que Valentin m'a raconté. Il va relater tout ça dans un entretien radio et vidéo que nous allons réaliser ensemble. J'ai pleuré comme un enfant lorsque Valentin m'a parlé. Je ne pouvais pas imaginer que des gens soient capables de ça. Soyez vraiment des nôtres. Et vous qui nous regardez à travers le monde, soyez présents ce samedi ou dimanche devant toutes les représentations officielles libyennes dans le monde. Soyez là pour marquer votre solidarité avec celles et ceux qui souffrent. Soyez là, sans haine ni violence, juste pour dire non. Et par nos actions, nous changerons le monde. Nous changerons le monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suivent la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15 % par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions à vous demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Yow da nga xamul ni yow deug bala neex
you borrow daily day. Yow danga khamul ni yow rew bala nerf you borrow daily day.
Les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, les réactions ont été entendues, des fois même très violentes, après le passage, je vous rappelle, de cette séquence sur CNN concernant la vente des migrants africains en Libye. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions en Europe et en Afrique, parfois très violentes, se sont exprimées sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos sur YouTube. Et nombre d'Africains pointent la responsabilité de leurs dirigeants dans l'absence de développement qui provoque les migrations de jeunes vers l'Europe. On pourrait aussi parler d'Haïti, hein. Il y a un article que j'ai vu dans le journal La Presse la semaine dernière qui fait froid dans le dos. Pourquoi des milliers de jeunes Haïtiens décident de quitter Haïti ces temps-ci? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir d'Haïti? Alors, je vous rappelle que certains dirigeants africains ont pris pas mal de temps pour réagir. Et oui, samedi 18 novembre, sur Facebook, le chanteur ivoirien de reggae que nous aimons beaucoup, Alpha Blondie, a lancé un cri de cœur. Pas un appel à la violence, insiste-t-il. Et dans ce cri de cœur, une vidéo sur YouTube, déjà vue de 1,1 million de fois. Eh ouais, il prend à partie les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la Libye est membre. Nous écoutons l'appel lancé de Alpha Blondy.
Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye, qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye au moment même où je vous parle. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire.
Et oui, il y a eu d'autres réactions. Le fameux acteur, comédien Omar Sy, Didier Dragoba et Sonia Roland ont aussi réagi. D'autres célébrités se sont également indignées, notamment l'acteur Omar Sy, le footballeur Didier Dragoba et l'ancienne Miss France Sonia Roland. Ils ont relayé les appels à manifester en France la semaine dernière. Lancé d'ailleurs par plusieurs associations, la manifestation non autorisée qui a rassemblé plus d'un millier de personnes portant des pancartes non à l'esclavage en Libye devant l'ambassade libyenne à Paris, s'est ensuite dirigée vers les Champs-Élysées où elle a été dispersée par les forces de l'ordre. L'ONU, pour sa part, dénonce un outrage à la conscience de l'humanité. Pour sa part, le haut-commissaire des Nations Unies à l'ONU aux droits humains, Zeid Raad al-Hussein, a dénoncé la semaine dernière la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye, qualifiant d'inhumaines les accords passés par l'Union européenne avec ce pays. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et président de la République de Guinée, était au micro d'une radio partenaire de cette émission. Nous l'écoutons.
Monsieur le Président, pardonnez-moi d'insister parce que vous savez, ce problème touche, et puis ben, en titre individuel, parce que je suis avant tout citoyen avant d'être journaliste, ce sont mes semblables que j'ai vus. Et ce sont des scènes que je voyais dans les films, des scènes qui retraçaient l'esclavage. Nous sommes fin 2017 et on trouve cela. Vous, en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, en tant que président en exercice de l'Union africaine, que pensez-vous réellement de ça quand vous voyez ces images?
D'abord, je n'ai pas vu ces images pour la simple raison que j'étais en voyage en Jordanie. Mais évidemment, mes ministres m'ont informé. Il est évident que l'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette. Et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison, le président de l'Union africaine. Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles de l'Union africaine pour obliger les pays qui ont permis cela, les obliger à mettre fin, et nous allons prendre une situation aussi pour voir comment nous pouvons mettre fin à une telle action abjecte et qui est indigne de tout homme et de l'humanité, et c'est contraire à tout humanisme. Et nous allons prendre certaines mesures ces jours sur nous-mêmes pour montrer à quel point nous sommes opposés à cela. Au niveau de l'Union africaine, nous allons prendre des initiatives s'il plaît à Dieu.
Oui, mais si on va aller un peu plus loin, parce que quand vous dites nous allons prendre, il y a une attente urgente. Je ne fais que me faire l'avocat de ceux qui aimeraient voir que quelque chose puisse bouger. Quelles sont les étapes par rapport à la prise de décision?
Nous allons nous concerter. Vous savez, l'Union africaine, quand même, on parle d'une seule voix parce qu'on se concerte. Nous allons nous concerter ces jours-ci, d'ici 48 heures, 3, nous allons nous concerter pour avoir une réaction forte et ferme. Mais nous allons nous concerter. Je vais m'échanger avec les autres chefs d'État, surtout les cinq. Vous savez que la présidence, quand le président a cinq vice-présidents, donc nous allons nous concerter avec les cinq vice-présidents là pour rapidement prendre quelles sont les initiatives que nous allons prendre concrètement au niveau pour mettre fin à ce scandale.
Et dans son dernier rapport, l'Organisation internationale pour les migrations révèle que des migrants subsahariens transitant par la Libye pour rejoindre l'Europe sont vendus publiquement comme esclaves. Le phénomène serait si important que l'Organisation internationale pour les migrants n'hésite pas à parler de marché aux esclaves. Comment cette nouvelle forme d'esclavagisme est-elle organisée? Que propose l'Organisation internationale pour les migrants afin d'éviter que d'autres migrants ne subissent le même sort? Michel Arsenault, au service de Radio France Internationale Afrique, répond aux questions de Juan Gomez.
Les migrants subsahariens sont effectivement vendus publiquement sur des marchés. C'est ce que rapporte l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, qui se base sur le témoignage de plusieurs dizaines de personnes. Bonjour Michel Arsenault.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Expliquez-nous comment est organisé cet esclavagisme.
D'abord, je vais peut-être tout de suite apporter une précision. Il ne s'agit pas uniquement de la vente de l'homme noir. Cela concerne aussi des femmes noires, parce que les femmes sont également les victimes de sévices, entre autres d'agressions sexuelles. Ça, on ne le dit pas assez souvent. Bon, cet esclavagisme n'est pas organisé en tant que tel. Il s'agit d'une activité criminelle, illégale, dans un pays où la seule loi en vigueur est la loi du plus fort. Les auditeurs savent bien que la Libye est en guerre depuis la chute de Kadhafi il y a 6 ans et que les groupes armés, qui s'appellent milices, brigades ou même armée nationale libyenne, tiennent le haut du pavé. En clair, les passeurs font ce qu'ils veulent. S'ils veulent vendre des hommes, des femmes ou des enfants, qui pourra les en empêcher?
Donc les passeurs profitent du chaos qui règne en Libye.
Du chaos, de l'anarchie, c'est vraiment la loi du plus fort. Bon, il ne faut pas imaginer la Libye comme un grand désert. C'est un grand désert, mais il y a aussi des exploitations agricoles, des champs en Libye. Donc, qui dit exploitation agricole, dit travailleurs agricoles. Et certains propriétaires entrent donc en relation avec ces passeurs pour trouver des employés, si on peut dire, parce que ces employés, entre guillemets, ne sont pas toujours payés. J'ai parlé il y a quelques jours à un Sénégalais, un Casamançais, qui disait lui-même avoir été vendu en Libye. Et il n'était pas le seul dans son groupe. Ils étaient plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, des gens qui avaient été retenus à Sabah, dans le sud libyen, dans un enclos, un garage en réalité.
Des hommes et des femmes qui se disent victimes d'esclavage.
Oui, exactement. Et parce qu'il y a des propriétaires agricoles qui jettent un œil quand même, pour être franc et au risque d'être brutal, sur la marchandise. Donc on cherche les candidats qui seraient les mieux placés pour faire du bon boulot, pour récolter
les plus vaillants, les plus costauds, les plus forts.
Exactement. Et si ça vous rappelle une autre époque, vous avez bien raison. Bon, qui dit esclavage dit violence. Et le Casamançais à qui j'ai parlé m'a bien dit que dans son groupe, les gens étaient frappés. Donc voici comment ça marche. Les passeurs veulent extorquer des fonds aux familles qui envoient aux migrants de l'argent tout au long du trajet. Donc les passeurs frappent les migrants lorsqu'ils sont au téléphone. J'ai bien dit pendant qu'ils sont au téléphone avec leur famille. Donc la pression est au comble pour les proches. Donc évidemment, ils se sentent obligés de verser des sommes qu'on leur demande, en réalité qu'on leur extorque, parce que c'est des sommes faramineuses.
Donc les familles restent au pays, sont obligées de rassembler une certaine somme pour pouvoir les verser donc à ces passeurs, afin de libérer les migrants.
Oui, exactement, oui, esclaves. Parce qu'à ce stade-ci, le mot juste serait otage. En fait, ils deviennent les otages des passeurs. Bon, ces méthodes, Juan, sont bien connues. Sur RFI, on en parle depuis des années. Sauf que jusqu'à maintenant, elles visaient surtout des Érythréens qui quittaient la Corne de l'Afrique. Et vraiment, c'est plutôt en Égypte où les Érythréens étaient saisis, faits prisonniers, ou parfois otages, et parfois torturés. Maintenant, ces méthodes concernent des Africains de l'Ouest une fois arrivés en Libye. J'ai utilisé le mot torturé parce que le Casamançais à qui j'ai parlé, que je n'ai pas identifié, il ne souhaitait pas donner son nom, a parlé de coups et il a dit qu'il avait été frappé. Mais il faut bien comprendre que ça va parfois beaucoup plus loin. J'ai déjà rencontré en Europe un jeune Érythréen, un jeune homme, pétant de santé, qui parlait bien l'anglais, un informaticien, un programmeur en réalité, qui m'a dit qu'il avait été torturé en Égypte, à tel point qu'il avait été amputé. Donc c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui était comme vous et moi. C'est-à-dire que s'il m'avait dit « je suis européen », je l'aurais cru facilement. Mais ce que j'avais beaucoup plus de mal à croire, c'est son histoire de jeune homme torturé et amputé. Et pourtant, il était devant moi. Je voyais bien qu'il avait été amputé. Mais ce qu'il racontait était tellement inhumain que nous, humains, avons du mal. Ça nous semble trop dur à croire. On ne peut pas penser que ce soit vrai.
Ça veut dire quoi, Michel? Ça veut dire que, effectivement, ces histoires, on en parle sur l'antenne des RFI depuis de nombreuses années. Ça signifie quoi? Que les migrants, en tout cas les candidats à l'immigration, ceux qui souhaitent traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe en passant par la Libye, se disent, oh, bah finalement, toutes ces histoires qu'on entend, ce ne sont que des histoires. On n'y croit pas vraiment.
Je les comprends parce que j'ai moi-même réagi de la même façon face à quelqu'un qui, devant moi, je le voyais bien quand même que ce jeune homme avait été amputé. J'avais du mal à le croire. Et je crois que c'est en partie le problème, il est là. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains continuent de vouloir partir parce qu'en fait, ils ne croient pas.
En quelques mots, Michel Arsenault, que propose concrètement l'OIM pour éviter que d'autres migrants ne subissent le même sort?
Surtout, l'OIM leur conseille de faire demi-tour. Donc là, il y a des campagnes d'affichage au Niger en ce moment. Il y a des panneaux, y compris en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones, des gens du Nigeria, du Ghana, où on invite les gens à se tourner vers l'OIM dans des centres de transit, à Dirkou, à Agadez, à Arlit. Et il y a même un numéro de téléphone qu'on donne pour les Africains de l'Ouest arrivés dans le nord du Niger.
Vous l'avez le numéro?
92 96 97 31.
Donc 92 96 97 31, c'est un numéro de téléphone nigérien, donc avec l'indicatif 227 avant.
Exactement. Et le message, c'est si vous avez besoin d'aide pour faire demi-tour, pour rentrer chez vous, appelez-nous.
Francophonie.
Avec vous, Dominique Bayer, bonjour.
Dis, madame, s'il te plaît, tu peux me dessiner un francophone?
Cet Cette question, le petit prince aurait bien pu la poser à Antoine de Saint-Exupéry. Et moi, elle me vient constamment à l'esprit quand je réalise cette émission. À force de chercher de par le monde les visages multiples des drôles d'oiseaux et autres spécimens rares qui composent la francophone, F-A-U-N-E, tout doucement, le miroir de la radio me renvoie un autre portrait. Sorti de la nuit des ondes, se dessinent les traits d'un francophone bien vivant, curieux, souvent très actif et toujours à l'écoute du monde. Ce francophone, c'est vous, cher auditeur, vous qui...
Et oui, nous remercions tous ceux et celles, surtout nos amis de Radio France Internationale qui ont participé à la réalisation de cette émission un peu mouvementée aujourd'hui. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages. Et merci au professeur Rebi Bouraoui qui trouve cette atrocité inimaginable en ce 21e siècle. D'ailleurs, il passera à l'émission très prochainement pour nous donner ses coups de cœur, ses coups de gueule, peut-être, de l'année 2017 qui s'achève bientôt. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, vous êtes invité à participer, madame, monsieur, à une émission multiplex avec nos correspondants à travers le monde le 17 et le 24 décembre prochain. Vous nous envoyez un mail à popourri@cut.fm ou encore téléphonez-nous. Nous attendons vos appels au 86 946 7000. À ne pas rater après, dans l'autre heure, nous allons passer à cette journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2017, 21 millions de personnes séropositives sont sous traitement. Que font les organismes, surtout dans la région de l'Ontario, de Toronto? Comme vous savez, ils ont reçu une augmentation de 11%, une enveloppe budgétaire qui n'est pas à délaisser. Mais malheureusement, selon nos amis, les sources de la région, les auditeurs, les gens qui vivent avec le VIH, qui sont francophones, n'ont toujours pas accès, ne croient pas d'ailleurs dans les services, les soins donnés par les organismes communautaires. Ils préfèrent aller chez les anglophones. Dommage. Et on en parle dans la deuxième heure. Et si vous n'avez pas répondu encore à notre appel, le son de votre ville, The Sound of Your City, l'édition automnale novembre 2017, vous pouvez le faire encore en nous envoyant votre contribution. Si vous allez sur le site de CUTFM, vous pouvez cliquer sur Donate et là vous allez avoir accès à la version électronique et c'est en toute sécurité. Ou encore vous nous envoyez un mail à popourri@cut.fm. Et vous pouvez nous appeler au 86 946 7000. Tous les donateurs sont éligibles de gagner un voyage pour deux en Islande. Gracieuseté de Iceland Naturally. Merci beaucoup. Taste of Iceland. Je vous rappelle que certains dons dédiés pour l'émission d'aujourd'hui et aussi une rencontre communautaire sociale vendredi. Nous remercions de tout cœur tous ceux et celles qui veulent aider les personnes vivant avec le VIH dans la région de Toronto. Et si vous organisez des activités, vous nous envoyez un courriel ou encore vous nous téléphonez. Nos sincères remerciements, profonde gratitude à toutes les personnes, les partenaires, les organismes qui nous ont donné un coup de pouce en direct la semaine dernière. Jezebel Bardot, drag queen francophone de Toronto, c'est notre icône. C'est la vedette de l'émission maintenant. Olga Lambert, directrice de People of Motherland, un monde de culture. Amy Clé Fontaine, président de la fondation Sylvain Lindor et leader communautaire haïtien à Toronto. Merci mille fois. Professeur Caroline Lebrec du département d'études langagières au campus de Mississauga, Université de Toronto, qui sera des nôtres la semaine prochaine pour une nouvelle série d'émissions. Avoir 20 ans à Toronto, peut-être, Mississauga, ou Dakar, ou Montréal. Vous allez voir, ça va être bien la semaine prochaine avec plusieurs étudiants, je l'espère. Jenny Lee, merci beaucoup d'avoir été là. Xavier Gonzalez, Taste of Island, Coup de cœur francophone, le Centre francophone, le Théâtre français de Toronto, Brian Brown of McLachlan Premium Imports, je vous remercie infiniment. Et le groupe Média TFO lance le premier EP de l'artiste franco-ontarienne Marie-Claude, anciennement, toujours le même nom, gagnant de la compétition musicale Planète BRBR. Marie-Claude Soro, alias Marie-Claude, devient l'une des nombreuses artistes propulsées par BRBR, la franchise de musique émergente de TFO, et elle sera des nôtres la semaine prochaine, madame, monsieur. Et merci beaucoup encore une fois au groupe Média TFO pour ce partenariat. Et quoi d'autre encore? Rapidement, je pense que nous avons aussi reçu plusieurs appels. Ah, on me dit qu'il y a quelqu'un qui devait passer à l'émission aujourd'hui, mais malheureusement, il ne pouvait pas le faire, mais peut-être très prochainement. C'est le Café Bilingue Franco-Queer, un organisme LGBTQIA dans la région de Toronto, qui vous invite à son nouveau programme, le Café Bilingue Franco-Queer. Cette activité vous permet l'apprentissage d'une langue seconde de façon organique, avec des pairs, dans un milieu inclusif, accueillant et sécuritaire. Allez sur le site www.francoqueer.ca pour tout savoir, et bientôt nous allons recevoir son coordonnateur. Et Reflet Salvéo, encore une fois, je vous rappelle, recrute un administrateur ou une administratrice pour siéger à son conseil d'administration. Allez sur le site www.reflet-salvéo.ca. Et n'oubliez pas, on va commémorer la journée mondiale de lutte contre le sida juste après cette pause.
Sur quelle planète suis-je tombée?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
On behalf of all the staff and volunteers at CIUT 89.5 FM, thank you to our generous listeners for helping us surpass our goal of $60,000 during the Sound of Your City membership drive. We couldn't have done it without you. If you haven't donated, don't worry. There's still time. Until December 31st, make a donation and be entered to win the trip for two to Iceland, courtesy of Iceland Naturally. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5 FM, bringing you the sound of your city for 30 years.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. 1er décembre 2017, journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous voulons rendre hommage à tous ceux et celles qui ne sont plus des nôtres. Au mois de juillet dernier, notre partenaire Radio France Internationale était en direct de la 9e conférence internationale sur le VIH à SIDA au Palais des Congrès de Paris. Cette conférence scientifique de haut niveau se déroule tous les deux ans et a pour objectif de confronter les données les plus récentes sur le VIH, les nouveaux outils de prévention ainsi que la prise en charge des patients ou encore à observer les freins structurels individuels à l'accès au dépistage, au système de soins et de prévention. Est-il vraiment possible d'envisager la fin du sida? L'ONU SIDA révèle que près de 21 millions de personnes séropositives sont désormais sous traitement. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre prochain, l'ONU SIDA lance la campagne 2017 de la journée mondiale de lutte contre le sida intitulée « Ma santé, mes droits ». Elle concerne le droit à la santé et se penchera sur les problèmes que rencontrent des personnes du monde entier lorsqu'elles veulent faire valoir leurs droits. Tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, son lieu de résidence ou son orientation sexuelle, ses choix amoureux, a droit à la santé, a déclaré le directeur exécutif de l'ONU SIDA, Michel Sidibé. Quels que soient ses besoins en matière de santé, chacun doit disposer de solutions sanitaires disponibles et accessibles, non discriminatoires et de bonne qualité. Le droit à la santé est inscrit dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 en tant que droit de chacun de jouir du niveau de santé physique et mentale le plus élevé que l'on peut atteindre. Cette campagne rappelle que le droit à la santé couvre bien plus que l'accès à des services de santé et des médicaments de qualité et qu'il dépend aussi de toute une série de garanties importantes, notamment des systèmes d'assainissement et un logement adéquat, des conditions de travail saines, un environnement propre et l'accès à la justice. Si le droit à la santé d'une personne est compromis, elle ne peut pas se protéger efficacement contre les maladies et les problèmes de santé, y compris le VIH, ou accéder aux traitements et aux soins. Les personnes les plus marginalisées au sein de la société, notamment les professionnels du sexe, les consommateurs de drogue injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les détenus et les migrants, sont souvent les moins en mesure d'accéder à leurs droits à la santé. Ce sont aussi les plus vulnérables au VIH. La plupart des objectifs de développement durable sont liés d'une façon ou d'une autre à la santé. Atteindre ces objectifs, dont fait partie la fin de l'épidémie du sida comme menace de santé publique d'ici à 2030, dépendra largement de l'application du droit à la santé pour tous. La campagne Ma santé, mes droits encourage les gens à partager leur point de vue, leurs préoccupations sur l'exercice de leur propre droit à la santé et à créer un mouvement mettant en lumière l'importance d'éradiquer les inégalités en matière de santé. Le matériel de campagne inclut des suggestions de tweets, des affiches, des cartes postales à télécharger et une brochure d'informations sur les principaux messages à diffuser sur le droit à la santé. Il faut admettre que des progrès remarquables ont été réalisés depuis quelques années en matière de traitement de VIH. En amont de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU SIDA a publié un nouveau rapport indiquant une hausse significative de l'accès au traitement. Jusqu'au mois de juin 2017, environ 20,9 millions de personnes ont eu accès aux médicaments vitaux. Un résultat d'une telle ampleur n'aurait pas été possible sans le courage et la détermination des personnes vivant avec le VIH dans la demande et la revendication de leurs droits et sans le soutien d'un engagement financier et d'un leadership fort et constant. De nombreuses personnes ne se rappellent pas qu'en 2000, l'an 2000, seules 90 personnes étaient sous traitement en Afrique du Sud. Et oui, le rapport du droit à la santé de l'ONU-SIDA indique aussi clairement que les États ont des obligations fondamentales concernant les droits de l'homme afin de respecter, protéger, promouvoir le droit à la santé. Mais qu'en est-il des droits des francophones de la région de Toronto? Des personnes vivant avec le VIH, qu'en est-il de leurs droits? Selon plusieurs sources, plusieurs patients francophones qui veulent garder l'anonymat et on les respecte, ils disent ne pas avoir confiance dans les services existants, les services qui sont supposés d'offrir des programmes de prévention, de dépistage en matière de VIH. Et, ouais. Et je peux confirmer que nous sommes bien souvent sollicités par des patients francophones pour des conseils, des références pratiques de dépistage et des soins existants dans les cliniques ou des hôpitaux de la région de Toronto. Et on le fait avec beaucoup de compassion, mais aussi d'amour. Et en même temps, on se pose des questions. Pourquoi ces gens n'arrivent pas à avoir accès à un service de qualité par les services existants qui sont censés de rejoindre la communauté francophone? Si ma mémoire est bonne, le Centre francophone de Toronto reçoit un budget, une subvention pour offrir des programmes de qualité, des services, même de dépistage de VIH. Mais qu'en est-il au juste? Au moment de préparer cette émission, nous n'avons pas pu confirmer les critiques et les mauvaises expériences des personnes qui nous ont contactés, mais nous allons poursuivre notre démarche dans les jours qui viennent. À noter que plusieurs organismes offrant des soins ou des services en matière de VIH ont vu leur enveloppe budgétaire augmenter de 11%. Eh ouais. Je vous rappelle encore une fois qu'une rencontre intime de commémoration aura lieu ce vendredi et nous remercions tous ceux et celles, nos amis, les auditeurs, les mécènes qui nous appuient dans cette démarche. 1er décembre 2017, journée internationale de lutte contre le sida, ayant pour thème « Ma santé, mes droits ». Place pour un court extrait du magazine Priorité Santé avec RFI.
Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct de la 9e conférence internationale sur le VIH-SIDA qui se déroule en ce moment au Palais des Congrès à Paris, organisée par l'International AIDS Society en partenariat avec la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites. Cette conférence réunit plus de 6000 médecins, chercheurs, activistes, représentants d'associations pendant 4 jours pour faire le point sur les recherches sur le VIH-SIDA. Alors, d'après le dernier rapport de l'ONU-SIDA, 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Des progrès considérables ont été accomplis. Plus de la moitié de ces personnes ont enfin accès au traitement. mais 1 million en meurent encore chaque année et d'importantes disparités régionales subsistent, notamment en Europe de l'Est et en Asie centrale où l'épidémie demeure incontrôlée avec une progression des nouvelles infections de 60% par rapport à 2015, mais aussi en Afrique de l'Ouest et du Centre, par exemple, où seuls 35% des personnes vivant avec le VIH ont accès à un traitement antirétroviral. D'ailleurs, dans le monde, 17 millions de personnes n'ont toujours pas accès à ce traitement. Alors, dans ces conditions, on va se poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment possible d'envisager la fin du sida? 4 personnes autour de cette table pour en parler. Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU Sida, Michel Kazatchkine, qui est envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le sida en Europe de l'Est et en Asie centrale, et le professeur Serge Ollier du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville à Abidjan. Il est coordinateur adjoint du site ANRS en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les quatre et merci vraiment d'être en direct à l'occasion de cette conférence. Michel Sidibé, les objectifs de 90-90-90 en 2020 sont-ils réalisables? Je précise, cet objectif, c'est que 90% des personnes qui vivent avec le VIH sachent qu'elles sont infectées, que 90% des personnes qui connaissent leur statut soient mises sous traitement et que 90% de ces personnes traitées aient une charge virale indétectable, ce qui veut dire en clair qu'elles aient quasiment aucun risque de transmettre la maladie. Votre objectif que vous avez déjà fixé il y a quelque temps, il vous paraît franchement réalisable?
Vous savez, au début, quand on a lancé à Melbourne l'idée d'aller vers 90, 90, 90,
donc
il y a 3 ans, la plupart des personnes pensaient qu'on demandait l'impossible. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu des objectifs ambitieux, parce que je pense qu'il est important pour nous d'aller vite, d'accélérer, d'atteindre ces personnes qui souffrent malheureusement parce qu'elles n'ont pas accès aux services.
Mais on est à 2 ans et demi de votre objectif et on n'en est encore qu'à la moitié qui sont sous traitement, par
exemple. Non, je pense que ce qu'il faut dire au monde, ce qui est très important, c'est qu'il y a seulement 3 ans avant qu'on ait lancé 90-90, on avait à peine, je dis bien à peine, 14 à 15 millions de personnes qui connaissaient leur statut sérologique. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. On voulait que les personnes soient en mesure de connaître leur statut sérologique. Aujourd'hui, on a 25,5 millions personnes qui connaissent leur statut sérologique. Vous pouvez imaginer, en moins de 3-4 ans, on est passé pratiquement de 14-15 millions de personnes qui connaissaient leur statut sérologique à 25 millions. Ce n'était pas seulement pour cela.
Donc vous êtes optimiste quand même.
Je suis optimiste parce que je vois qu'aujourd'hui, on a 70% pratiquement qui connaissent leur statut sérologique. On a 77% de ces personnes qui sont sous traitement. Et on a à peu près 82% des personnes qui sont sous traitement et qui aujourd'hui arrivent à contrôler l'activité du virus dans leur sang. Et ce qui est important, c'est aussi l'impact en termes d'accès aux services, par exemple le dépistage. Le dépistage était un problème majeur, ça nous coûtait très cher. Juste, il y a ce test individuel coûtait $45 il y a quelques années, $28 à Paris. Aujourd'hui, avec United, on parle de $2-3. On va aller vers un dépistage massif, une révolution dans le dépistage. Moi, je suis convaincu.
Parce que si on veut que les gens soient sous traitement, il faut qu'ils soient d'abord dépistés.
Et 2 400 000 personnes sous traitement en une année. Oui. N'oubliez pas.
De plus. 7 pays ont déjà atteint cette cible des 90-90-90, dont des pays en Afrique, le Botswana et le Swaziland.
Aujourd'hui, on vient juste d'annoncer
à l'instant
que le Swaziland a atteint les 90-90-90. Qui aurait cru? Moi, j'étais représentant de l'UNICEF au Swaziland.
Tu aurais cru ça il y a quelques années?
Impossible. Il y avait 35% de prévalence. Une personne sur 3 était infectée. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait atteint ce chiffre-là.
Anne Hidalgo, vous avez lancé une campagne vers Paris sans sida. Faisons de Paris la ville de l'amour sans sida. On voit plein d'affiches en ce moment dans la ville de Paris, entre autres à l'occasion justement de cette conférence. Mais Paris n'y est pas encore à ses 90-90, contrairement d'ailleurs à Melbourne et Amsterdam, c'est ça?
Bien sûr, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on s'est engagé de façon résolue derrière cet objectif. Ce que vient de dire Michel Sidibé est essentiel. Cet objectif, il faut le fixer de façon ambitieuse et bien sûr mettre mettre les moyens derrière, parce qu'il y a l'objectif et la méthode. La méthode à laquelle nous a incité ce 90-90-90 est une méthode dans laquelle on met également les communautés, on met la société civile, les médecins, les chercheurs, les villes, de ce point de vue, une municipalité, c'est une grande communauté qui a une capacité à mobiliser. Donc c'est ce que nous avons voulu faire, et vraiment en partant du terrain. Souvent, vous savez, sur des objectifs de santé publique, on considère que la population n'est pas forcément celle par laquelle les évolutions vont pouvoir se faire. Sur la question du sida, il y a eu depuis toujours, d'ailleurs, des chercheurs, des médecins qui ont très vite compris que cette maladie, elle n'était pas simplement une maladie, elle était aussi une question sociale, sociétale, fondamentale, tant il y avait des discriminations qui étaient liées à la question du sida, et que c'était impossible de combattre le sida sans travailler avec les usagers de drogue, avec les populations les plus fragiles. Et dans une ville comme Paris...
Les populations les plus fragiles,
du point de vue notamment de l'épidémie, mais parfois aussi d'une façon plus générale, les populations migrantes d'Afrique subsaharienne, et notamment les femmes, qui sont une cible très très importante.
Qui représentent 38% des nouveaux cas chaque année.
Oui, et qui sont vraiment pour nous une cible, et notamment avec les associations, en accompagnant les associations qui travaillent avec ces populations. La population gay, la population homme homosexuel, jeune et moins jeune d'ailleurs.
Plus de la moitié des nouvelles
populations. Voilà, où là aussi, Paris est une ville qui est une ville très tolérante, vers laquelle beaucoup de populations, notamment de jeunes gays, viennent un peu comme dans une ville refuge, parce que c'est une ville où on peut vivre sans que le tabou encore... présents de l'homosexualité ne viennent perturber les vies de chacun. On est dans une ville où chacun peut vivre dans sa liberté avec les autres. Et cette ville a aussi forcément des populations fragiles parce qu'elles ont été exclues ailleurs, parce qu'elles viennent chercher ce refuge à Paris. Et donc il y a un travail spécifique vis-à-vis des communautés gays qu'il faut faire et que nous faisons pour leur parler, pour être aussi sur des mots qui peuvent les toucher, qui peuvent les faire rentrer dans une dynamique qui doit être collective. Donc oui, on s'est engagé là-dedans. Et d'ailleurs, au-delà de la déclaration de Paris sur le 90-90-90, nous allons signer aussi, je m'y suis engagée, la déclaration communautaire qui, partant justement des associations et qui déjà a été signée par notamment New York et Washington, va permettre d'appuyer sur le rôle de ces communautés pour qu'on aille vers le dépistage et vers le traitement. Parce qu'à partir de là, ce n'est plus un rêve de parler de Paris sans sida ou de ville et d'un monde sans sida.
On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur concrètement qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de ces populations migrantes et des populations homosexuelles. Vous nous expliquerez aussi comment un maire justement peut agir. On parle toujours des gouvernements. Finalement, c'est intéressant de voir que des maires se mobilisent, et vous avez mobilisé d'autres maires dans les pays du Sud, dont des pays africains. Je voudrais maintenant qu'on parle...
Je voudrais ajouter quand même, parce que c'est très important, en 2014, avec Anne Hidalgo, quand on a décidé de lancer cette initiative avec les villes, personne n'y croyait. On a eu cette déclaration de Paris. Aujourd'hui, on a quand même plus de 200 villes qui ont signé cette déclaration. Et je crois que c'est très important.
Donc pas mal de villes africaines.
Donc pas mal de villes africaines.
On va parler de la situation dans les pays de l'Est de l'Europe et en Asie centrale. Professeur Kazatchkine, les chiffres ne sont pas bons, là, les derniers chiffres de l'ONU SIDA sur cette partie-là du monde. C'est même des chiffres moins bons que ce qu'on trouve en Afrique.
Oui, les chiffres ne sont pas bons. C'est une épidémie qui continue de progresser de 10% par an, 60% de progression en termes de nouveaux cas entre 2010 et 2016. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais avant, laissez-moi juste dire que ce qui me frappe dans ces succès dont nous parlons ensemble, c'est aussi la source d'espoir que cela représente, hein, pour tout le monde, y compris pour les pays de l'Est, dont d'ailleurs certaines grandes villes ont aussi rejoint l'initiative des maires.
D'abord un message d'optimisme.
Je partage entièrement ce qui a été dit et je crois que l'espoir que suscitent ces résultats doivent être... Je vois une nuance entre espoir et optimisme, n'est-ce pas? Alors, cette région, elle est particulière, d'abord parce que l'épidémie en Europe de l'Est est beaucoup plus tardive que dans le reste du monde. Dans le reste du monde, l'épidémie a commencé dans les années 80, ici ou même avant. En Europe de l'Est, elle a commencé en 95, dans les années 95-2005, au moment où de cet effondrement économique et social de l'ère immédiatement qui a suivi immédiatement la chute du mur. C'est une épidémie qui est encore en train de monter, qui n'a pas encore atteint son apex. Ensuite, bien sûr, c'est une société qui est en ce moment très repliée sur elle-même, une société conservatrice qui prône des valeurs morales, qui n'est pas du tout prête à la tolérance dont Anne Hidalgo parlait un instant à propos de Paris. C'est aussi une société où le système de santé n'est pas prêt parce qu'il n'a pas transité de ce qu'il était, il a encore hérité du système soviétique, très vertical, très curateur, très centré sur l'institution, sur les médecins, pas du tout sur le patient. C'est aussi une société qui ne connaît pas encore les organisations non gouvernementales et la société civile, et son rôle si fondamental, comme on l'a dit, c'est enfin une région qui se débat avec des problèmes économiques. L'Ukraine fait face à des difficultés majeures. La Russie investit actuellement, à ce que l'on estime, environ un cinquième seulement de ce dont elle aurait besoin pour la lutte contre le sida. Mettez tout cela ensemble et vous créez les conditions de la croissance de l'épidémie. J'ajoute encore deux choses, c'est que d'abord je vois aussi des signes positifs. Je vois des pays, je citerai la Bélarus, le Kazakhstan, qui ont véritablement maintenant opéré leur transition du Fonds mondial qui finançait entièrement pratiquement la réponse contre le sida vers une réponse autonome et domestique. Et puis je vois d'excellents résultats dans la transmission, dans l'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Je crois que parmi les 5 premiers pays que l'ONU SIDA a déclaré sans transmission, il y en a 2 dans la région, l'Arménie et le Bélarus. Et puis je vois aussi maintenant des progrès dans le domaine le plus délicat sur lequel nous reviendrons, je pense, qui est celui des usagers de drogue, puisque la méthadone qui reste illégale et interdite en Russie, et c'est un problème majeur,
qui est le traitement de substitution
qu'on offre aux patients dépendants de l'héroïne, est maintenant pratiquement acceptée dans tous les autres pays de la région. Il n'y a que l'Ouzbékistan aussi. Et encore, l'Ouzbékistan est sur le voie de commencer un essai clinique là-dessus.
Donc on avance. Je voudrais revenir sur le deuxième point que vous avez évoqué. Sur la question de la tolérance. Est-ce qu'on ne peut pas aller quand même un peu plus loin, parler de discrimination, entre autres, concernant les usagers de drogue et les homosexuels?
Bien sûr, la discrimination, elle n'existe pas qu'en Europe de l'Est et en Asie centrale. Elle est partout. C'est un énorme problème, y compris dans le système de santé. Et récemment, un ensemble d'organisations de l'ONU, à l'initiative de l'ONU SIDA, ont lancé un cri d'alarme là-dessus. Mais effectivement, je vois à chacun de mes voyages dans la région, mais j'ai vu cela dans le monde entier, des patients qui nous disent qu'ils n'ont pratiquement pas accès aux soins ou n'ont aucune envie d'aller chercher un service du fait de la discrimination qui les entoure.
J'aimerais
prenons le rythme et la cadence.
RFI.
Le rythme
RFI
et la cadence.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter, mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonner les mots muets, le temps coule dans le sable. Pour oublier, ne pas.
Tournez la page, une chanson qui. Nous en sommes sûrs, deviendra culte et qui a une résonance toute particulière au regard de l'actualité de certains qui cherchent ailleurs une vie meilleure. Zao est notre hôte.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses.
Mon vrai prénom c'est Zahera. Donc il y a le Z, A et le H. Et chez nous, quand on chouchoute quelqu'un, c'est comme... c'est comme toi, ton vrai prénom, c'est pas ça.
C'est Claude.
Exactement.
Et
voilà.
Claudie, c'est ma mère qui m'appelait
voilà.
Claudie. Et
Claudie,
donc tout
le monde, bah pareil. Zahera, Zao.
Tu es né dans la banlieue d'Alger. Mm-hmm. Tu as quitté ton pays natal à l'âge de 18 ans.
J'ai reçu une superbe éducation. J'ai mes deux parents qui sont intellectuels.
Ouais.
Donc ma maman qui est prof.
L'informatique, c'est ça.
Un doctorat en mathématiques, donc qui était prof de mathématiques à l'université. Mon papa, pareil, voilà, j'ai reçu cette éducation où, avant de sortir, jeter le cartable et sortir jouer dehors, bah, il fallait se taper des dictées de Stendhal et des Misérables, Victor Hugo, etc. Et si on avait moins de temps de faute, on avait le droit de sortir jouer. Mais ça ne voulait pas dire que forcément qu'on était aisé, on habitait. Moi, mon frère et ma sœur, on partageait une petite chambre où on avait chacun un petit coin de lit. Et c'est ce qui est déjà pas mal, mais c'est une richesse, ça aussi. Parce qu'on réalise, en ayant les armes, donc qui est l'éducation, la chance qu'on a quand on a plus, quand on réussit, quand on a plus de moyens aussi. Et ça permet de ne pas enfler de la tête, on va dire, et de se rappeler que c'est pas un dû. Et ça peut repartir, mais quoi qu'il arrive... ce qui restera, comme on dit, il y a une expression que je vais traduire de l'algérien, il ne reste de la rivière que les pierres. Donc le flux part et puis il reste la base.
Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur.
Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir, mon amour n'est pas peur.
Je t'aime la journée, mon cœur va parler, mais je n'ai plus le faire.
Ma meilleure, Zao featuring La Fouine.
Yes.
Belle collaboration, c'est une vraie histoire d'amitié entre vous.
Oui, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, 11 ans ou 12 ans. On s'est connus, il était maigre comme un clou, j'étais encore plus garçon manqué, j'avais les cheveux courts. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très touchant.
Ouais.
Et que la preuve, on a fait en 11 ans, on a fait 3 collaborations, pas que celle-là. Et c'est vrai que quand il m'a proposé de faire cette musique, j'ai dit oh, ça fait trop, ça va, on n'est pas un groupe et tout. Et il m'a dit écoute-moi, Mazao, il y a que toi qui peux la chanter celle-là. Je parle de moi, de ma vie, tu connais un peu ma vie, ouais. Etc. Donc j'étais au Canada, il m'envoie l'instru. J'ai adoré l'instru, vrai coup de cœur. J'ai écrit dans la foulée. Donc je l'ai rappelé, il croyait que je le rappelais pour dire oui ou non. Je l'ai rappelé avec le couplet, enfin avec le refrain et déjà tout. Il m'a dit exactement ces mots-là. Il m'a dit « Tu es quelqu'un, Zao ». Il criait au téléphone.
Ouais.
Et bon, ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir, mais je réalisais pas l'impact que ça allait avoir sur les gens. Parce qu'on a tous un meilleur ou une meilleure dans notre vie. Que ça soit un enfant, un mari, un papa, une maman. Voilà, on se bat toujours plus pour les autres que pour soi-même, donc c'est important de faire des chansons comme ça aussi.
Il y a d'autres hommes de ta vie, musicalement parlant.
Oui.
Je parle de Soprano,
bien sûr.
Je parle de Tunisiano, je parle de
Phil Grace. C'est une vraie famille, toute la scène urbaine, m'a accueillie à bras ouverts. C'est vrai que c'est la culture qui a eu le moins de préjugés sur moi, qui était un peu un ovni, qui arrivait de nulle part. Et c'est ceux qui ont pris le plus de risques avec moi et qui m'ont permis de m'épanouir aussi à travers des morceaux et qui, où, là où j'ai été force de proposition, qui ne m'ont pas dit ouais, non, c'est trop risqué.
Et oui, Zao, et merci beaucoup à notre ami Claudie Sillard pour cette belle présentation. Je vous rappelle, dans le cadre de Planète Découverte, oui, c'est le cas peut-être de le dire, grâce au groupe Média TFO qui lance le premier EP de l'artiste franco-ontarienne Marie-Claude, gagnante de la compétition musicale Planète BRBR. Marie-Claude Soro, alias Marie-Claude, devient l'une des nombreuses artistes propulsées par BRBR, la franchise de musique émergente de TFO. Véritable caméléon, créatif et voyageuse émérite, Marie-Claude peut tout à fait commencer à écrire dans une cabane de bois, rond, en campagne, et continuer dans un décor urbain, quelque part dans le monde. Et oui. Donc la semaine prochaine, à ne pas rater, elle sera des nôtres à 11h35. Et puis dimanche 3 décembre, CUTFM met la radio au service de la promotion et de l'apprentissage de la langue française grâce au soutien d'une équipe de spécialistes de l'enseignement, apprentissage du français et de professionnels de Radio France Internationale, notre partenaire, et aussi en partenariat avec le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto. Et avoir 20 ans à, dans quelle ville ? On vous laisse rêver. C'est une séquence pédagogique de Radio France Internationale. Partenaire de notre émission, c'est aussi un outil pédagogique utile pour les auditeurs à entretenir une langue qu'ils ne pratiquent pas tous les jours pour permettre à d'autres de se familiariser ou d'améliorer leur connaissance d'une langue dont ils ont souvent besoin pour leur travail, pour tous ceux et celles et enfin qui aiment et veulent maîtriser le français pour les valeurs qu'elle véhicule. Forte de son statut de première radio internationale de langue française et consciente de représenter un outil essentiel pour le rayonnement et la présence de la langue et de la culture française dans le monde, Radio France Internationale s'engage aux côtés de ses radios partenaires comme CUTFM pour mettre son savoir-faire radiophonique éducatif au service du public mondial et de la région. Plus d'un million d'internautes utilisent le site de RFI pour apprendre ou animer la classe de français avec des sons authentiques. Donc, à ne pas rater, la première émission sera réalisée et présentée le 3 décembre, donc dimanche prochain, en partenariat avec professeur Caroline Lebrec et ses étudiants. C'est toute une première et bravo pour cette belle collaboration. Quoi d'autre ? L'association des auteurs de l'Ontario français continue de travailler sur une politique du livre afin de favoriser le développement et l'épanouissement du secteur littéraire franco-ontarien. Une ébauche devrait être prête pour le printemps prochain. D'ailleurs, j'attends toujours le message, le coup de téléphone de notre ami qui est au Mexique. Monsieur Belmar, non ? Monsieur Belmar, si vous êtes à l'antenne ou sur le net, sur votre ordinateur, sur la plage, au Mexique. On attend votre appel, hein. C'est le 1-416-946-7000. On va parler du Salon du Livre, mais aussi des poètes québécois qui seront de passage à Toronto cette semaine. Alors que le Québec œuvre actuellement pour une révision de sa loi du livre, dite loi 51, prévu en 2019, l'Ontario français lorgne avec intérêt sur la province voisine et son arsenal législatif afin de promouvoir et développer la littérature franco-ontarienne. D'ailleurs, il y a une loi, je pense, sur le livre français qui a été annoncée cette semaine en Ontario. Mais on ne peut pas comparer ce qui se passe au Québec, dit le directeur général des éditions David, Monsieur Mark Hengens. Il dit « La loi sur le livre au Québec régit tous les joueurs de l'industrie, Par contre, en Ontario, on aurait davantage besoin d'une réglementation qui touche uniquement le milieu du livre francophone. Toujours est-il que depuis un an, l'idée lancée en 2007, à l'issue du forum de conception ou de concertation du livre franco-ontarien, a repris en consistance pour répondre au manque de visibilité des œuvres franco-ontariennes et aux fermetures ces dernières années de plusieurs librairies de langue française à Toronto, Windsor et Sudbury. C'est un vrai, vrai problème, l'édition, les maisons d'édition francophones en Ontario. Et d'ailleurs, le fameux Salon du Livre qui démarre cette semaine, on me dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes ou d'élèves, grâce au partenariat avec les conseils scolaires de la région, que d'adultes. Alors, où sont les adultes francophones? Est-ce que ces gens ne lisent pas, ne regardent pas l'actualité francophone? ou ne veulent pas s'impliquer? Alors, je vais me faire attirer des flèches, je pense. Toujours à Toronto, on nous dit que la province mettra sur pied une destination Ontario au Maroc et en Algérie. Ça démarre, je pense, l'année prochaine. Donc, il y a de l'espoir. Alors, je rappelle aux gens, la province mettra sur pied destination Ontario au Maroc et en Algérie l'an prochain. Ça a été annoncé par la ministre des Affaires civiques et de l'immigration, Laura Albanese, dans le cadre de la signature de la nouvelle entente Canada-Ontario sur l'immigration vendredi dernier. Toutefois, ceux qui espéraient plus d'informations concernant l'annexe francophone incluse dans la signature de la nouvelle entente Canada-Ontario resteront sur leur appétit. On nous dit que les détails doivent encore être finalisés. On nous dit que tout n'est pas fin prêt, donc une annonce complète aura lieu au début de 2018 lors d'une conférence de presse, nous dit Madame la Ministre. Une demande faite par la communauté francophone depuis de nombreuses années. Et elle dit, nous allons travailler plus agressivement pour faire la promotion du Canada et de l'Ontario comme une destination. C'est ce qu'elle a assuré. D'ailleurs, je pense que nos amis ONFR aura un entretien en exclusivité avec la ministre des Affaires civiques ou la ministre de la Culture. Alors, c'est à suivre. Alors, monsieur, avant de vous parler du Salon du Livre, on va passer à une pause musicale. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui nous ont appelés depuis deux semaines et ont contribué si généreusement. Et nous remercions notre ami monsieur Bonnet pour sa très belle carte, c'est vraiment touchant, et aussi sa contribution, monsieur Georges Benoît. D'ailleurs, si monsieur Bonnet veut remplacer notre invité, pourquoi pas, 86 946 7000. Et merci de votre fidélité.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali. Nombreux ont été les artistes que le concours Découverte a permis de faire éclater au grand jour. En 82, un Congolais du nom de Zao fit rigoler tout un continent en se parant des décorations de l'ancien combattant. Après Zao, ce sont Nzongosoul, Mangala, Master G ou encore Afiamala qui trouvent en Découverte le premier tremplin à leur carrière. En 1990, le concours, jusque-là réservé aux chanteurs, s'ouvre au groupe. Amoya du Mozambique en profite pour faire une entrée remarquée.
Divona kushonga kajone
usiku sana mujha
Dans un contexte politique.
T'es perdu dans la foule, des milliers d'autres comme toi. Ton mascara qui coule sur tes futurs pas de toi. Ta vie est un château, château de cartes de crédit. Au paradis fiasco, on ne prend que les raccourcis. Et tu rêves de dynamite, de t'enfuir par la vitre. La jouer kamikaze, plus de son, plus d'image.
Ils ont la nationalité russe. Toute ma famille a la nationalité russe. Mais ici aussi, il y a cette différence entre la nationalité. Par exemple, une personne qui a la nationalité française,
avoir 20 ans,
c'est fini.
À Dakar, Moscou, avoir 20 ans au Mali, avoir 20 ans en Haïti, Genève, et peut-être Toronto. Avoir 20 ans, une nouvelle séquence pédagogique de Radio France Internationale en partenariat avec Popourri Show et le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, à ne pas rater dès le 3 décembre avec Caroline Breck et ses étudiants. Avoir 20 ans.
Oui, bien sûr, c'est important. Parce que moi, je me sens toujours un peu étrangère. Je me rappelle que, par exemple, à l'école, j'avais des problèmes même de dire une phrase comme « chez nous », si je veux dire ici en Russie.
Et pour nous joindre tout au long de cette émission, c'est le 86 946 7000 ou encore popourri@cut.fm.
L'injustice, le dégoût,
l'impuissance entre nous.
Que remplace un sourire
quand on
sait
voir.
Un peu de soi,
d'un pas vers l'autre, c'est la seule voix qui s'aime là.
Que l'on se doit, qui est la nôtre, c'est la seule.
Et oui, nous arrivons presque à la fin de ce voyage intercontinental. Et monsieur Gaston Belmar, président et fondateur du Festival international de la poésie, est sur une des plages de Mexico en ce moment. Malheureusement, on a de la difficulté à entrer en contact avec lui. C'est un important festival hein, quand même de la poésie, un événement international auquel participent près de 40 000 personnes de tous les âges et de toutes conditions sociales. C'est un festival qui présente annuellement 350 événements répartis sur 10 jours impliquant plus de 100 poètes venus des 5 continents dans 170 lieux différents de Trois-Rivières au Québec et de sa région et fait de cette ville la capitale de la poésie. C'est un monsieur qui fait beaucoup de choses. Il a initié des accords de coopération, de partenariat avec 20 festivals internationaux de poésie. Plus récemment, il a été fait membre de l'Ordre du Canada. Et je vous rappelle qu'il participe avec 42 pays qui participent à son festival. C'est un catalyseur, un rassembleur, un leader, nous dit-on. Et une grande passion pour la poésie. Et il nous donne rendez-vous aux 25e édition du Salon du Livre de Toronto. Les poètes québécois Corinne Chevarier et Stéphane Despaty rejoindront les écrivains francophones au Salon du Livre de Toronto à la bibliothèque de référence 789 rue Yonge. C'est le métro Blue Yonge. Centre-ville de Toronto, le 30 novembre, à ne pas rater, et il y aura un récital de poésie. Un récital bilingue se tiendra le lendemain en compagnie avec les poètes du Québec, mais aussi ajouté avec, je pense, la présence du poète franco-ontarien Éric Charlebois, donc le 1er décembre à 20h à la librairie Knife Fork Book. Et c'est au 244 Augusta Avenue à Toronto, www.nightforkbook.com pour avoir des renseignements. Très bien, hein, j'aime bien le site web. Donc, malheureusement, M. Belmar ne peut être des nôtres, mais voilà, le message est passé. Et nous allons recevoir très prochainement à notre émission Jeune, qui est coordonnateur d'un nouveau programme qui est lancé par un groupe servant la communauté LGBT dans la région de Toronto, Café Bilingue de Franco-Queer. Et si vous allez sur le site www.francoqueer.ca, vous allez avoir tous les détails, peut-être même devenir membre de cet organisme. C'est peut-être le seul organisme LGBTQIA dans la région de Toronto. Cette activité vous permettra l'apprentissage d'une langue seconde de façon organique avec des pairs dans un milieu inclusif, accueillant et sécuritaire. Donc la semaine prochaine, nous recevrons le coordonnateur de cette cette activité. Donc, encore une fois, on nous dit que lors du Salon du Livre de Toronto, vous allez avoir des souvenirs, des anecdotes avec les amis du Salon. Marc Lemire, Marguerite Anderson, Éric Robitaille, Yves Turbide, Claudette Jaicot, Paul-François Sylvestre, Alain Baudot, François Bergeron de l'Express de Toronto, Guy Bignot, Jean Martin, Paul Savoie seront au rendez-vous. Donc, à partir du 30, on célèbre quand même 25e édition du Salon du Livre de Toronto, qui est, je dois dire, clopi-clopant. Alors, c'est comme ça. Je remercie beaucoup DJ Devera d'avoir été là. Xavier, Jenny Lee, merci mille fois. Et le Journal Express de Toronto et RFI Priorité Santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.